Aujourd'hui, la masterclass de Romain Goupil avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Romain Goupil ici au Centre Pompidou, enregistrée dans le cadre du week-end Imagine 2018 de France Culture. Le principe de cette collection, je le rappelle, c'est de savoir comment un artiste travaille très concrètement, comment il exerce son art. Avant de véritablement débuter, peut-être rappeler que le cinéma est venu très tôt dans votre vie, Romain Goupil, avec deux courts-métrages réalisés quand vous aviez 17-18 ans, très peu de temps après avoir été viré de votre lycée pour activisme pro-Vietcong. Politique et cinéma sont les deux axes autour desquels gravite votre vie. Vos héros de jeunesse, d'adolescence, c'est sur un pied d'égalité Fritz Lang et Léon Trotsky.
C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que la famille, depuis tout le temps, quand c'est pas un grand-oncle qui est clown, Little Teach, c'est lui qui avait les immenses chaussures dont va servir après Charlot. Ça, c'était un grand-oncle, grand-mère ou arrière-grand-mère ou je sais plus quoi, qui était chanteuse d'opéra, et tout le monde, ma grand-mère qui était une femme que vous avez tous entendue, puisque c'est elle qui faisait Ma sorcière bien-aimée, la voix de Ma sorcière bien-aimée, et qui faisait la dernière voix dans le Titanic de Barbara Stanwyck. Donc, de ce milieu-là, de ce fonctionnement-là dans cette famille, mon père travaillait comme opérateur et chef opérateur sur des films qui étaient que vous connaissez, Le Monde du Silence, le commandant Cousteau, les films de Mal, les films de René, comme Hiroshima mon amour et des films, plein d'autres films, enfin de cette époque-là. Ça veut dire que quand moi je commence, c'est un peu comme enfant de la balle, c'est-à-dire je me pose pas trop de questions. Moi, la façon dont ça va commencer très très vite et très très jeune, c'est mon père me dit tu vas apprendre à photographier et à tirer toi-même, c'est-à-dire à sortir les épreuves de comment tu photographies pour pouvoir te servir de l'agrandisseur. Mais ça, je vous parle de ça, j'ai 7-8 ans. 7-8 ans, il m'apprend ce que c'est que le fixateur, ce que c'est que le révélateur et comment bien ranger le labo. Sans ça, j'ai plus jamais l'autorisation de rentrer dans ce petit laboratoire. Et pour apprendre la lumière, pour apprendre les cadres, il pensait que le mieux, c'était que je commence par la photographie. Donc, il y a toute une série de photos qui datent de cette époque-là, où bien sûr, qui est-ce que je vais prendre, enfant de la balle, mes frangines, les parents, les copains qui passent à la maison. Et les copains qui passent à la maison, c'est Jacques Higelin, qui avait 19 ans, c'est tous les opérateurs, Pierre Lhomme, tous ceux qui font des films, c'est tous les techniciens des films de l'époque qui vont venir manger, discuter. Et moi, je vais faire ces photos. Et après, Pierre Lhomme, qui est un éminent chef opérateur, va dire, mais est-ce que tu veux te servir d'une petite caméra, 8 mm? Et j'ai 12 ans. Et au lieu de rendre un devoir qui était demandé en classe au petit lycée Condorcet sur une dissertation sur Paris, j'ai demandé si je pouvais faire un petit film. Et c'est les images qu'on voit, les tout débuts des images qu'on voit dans Mourir à 30 ans, sur la tour Eiffel qui tombe, sur le génie de la Bastille. Enfin, il y avait plein comme ça. J'avais fait tous les monuments de Paris avec ce petit film. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi la photographie était importante et pourquoi cette petite caméra, c'est qu'à l'époque, il fallait tout régler. C'est-à-dire que il y avait des diaphragmes et le diaphragme était lié à la lumière. Il fallait apprendre si vous étiez vous ouvriez à 22 ou si c'était à 2,6, 2,4, 5,6. Pourquoi on faisait ça? Et après, ça avait un rapport énorme avec la profondeur de champ. Si vous aviez beaucoup de lumière, c'était pas flou. S'il y avait très peu de lumière, il fallait calculer exactement la distance. Il n'y avait pas de télémètre. C'est pas du tout comme maintenant. Le fait que c'était assez cher la pellicule, qu'on ne voyait pas du tout ce qu'on filmait et qu'il fallait après attendre un délai incroyable, à peu près un mois, pour voir les images qui vous revenaient du laboratoire. Donc ça, c'était mentalement complètement différent maintenant des caméras vidéo où on filme, où tout est fait presque automatiquement, la lumière, le point, et on voit le résultat immédiatement. Donc ça avait des conséquences à l'époque apprendre la technique et s'en servir pour des choses complètement différentes de tout ce qui est l'apprentissage habituel. Jamais je n'ai filmé un anniversaire, jamais j'ai filmé quelque chose lié à la maison ou à ce qui se passait autour de moi. C'était des petits films où on écrivait des petits scénarios et on racontait des petites histoires. Donc Enfant de la balle est plutôt la tendance du cinéma qui était la tendance saltimbanque, c'est-à-dire comment le cinéma a commencé, comment le cinéma a débuté. Moi, j'en fais l'expérience par moi-même, c'est-à-dire quand je découvre, un peu comme le tout début de l'histoire du cinéma, mais ça, je vais le faire en découvrant, que si je prends la caméra et que je la bouge, comme ça, bah, je peux faire tomber la Tour Eiffel. Qu'en fait, c'est plutôt le burlesque, c'est plutôt ces films-là, les films muets, qui vont me servir de référence. Parce qu'à la maison, dans cette cité où on habitait tous, il y avait des grands frères, 5-6 ans de plus que nous, qui mettaient un drap et qui avaient ces petits projecteurs où on voyait Charlot Soldat, où on voyait Laurel et Hardy. Et à l'époque, c'était les jeudis. Tous les jeudis après-midi, il y avait une séance, pas de ciné-club, une séance avec les 30 mômes, les petits parigots, les titis, ceux de la cité, où on était complètement fascinés par ces projections sur ce drap. Et probablement, ça vient des discussions que j'entendais chez moi, de fait de regarder ces films, parce qu'il n'y avait pas du tout de télévision, il n'y avait aucune télévision dans cette cité, personne. Elles sont arrivées en 69, je pense, on ne voyait rien. Et on faisait, par contre, ces petits films en 62, à partir de 62-63, je vais faire ces petits films dont on peut trouver la trace dans Mourir à 30 ans.
Alors, ce qui est très bien, c'est que vous avez répondu sur le cinéma, Romain Goupil, et c'est vraiment le sujet de cette masterclass, mais du coup, vous n'avez pas répondu sur la politique. Est-ce que les films que vous aimiez adolescents, ceux que vous voyez, y a la dimension politique vous importait ou la forme pure du cinéma comptait davantage ?
Le film que je vais découvrir, le premier film, enfin, j'en vois avant, mais vraiment le film qui me marque, le film qui est fondateur, constitutif, est un film politique, mais extrêmement complexe. C'est M le maudit. C'est d'un film d'une complexité incroyable sur la montée du nazisme. Et donc, me vient de ce premier film que je vois en Allemagne de l'Est. Je dois avoir 12 ans ou 13 ans. C'est un voyage en 63. J'ai 12 ans. Et je vois ce film. Et ce film va me marquer de manière fondamentale en disant... Tout film politique qui illustre un discours est sans intérêt, c'est de l'agit-prop ou ça ne m'intéresse pas, mais tout film où il y a une question et où s'inverse l'identification, ce qui est le cas pour M. le Maudit, est un film politique, certes, mais politique au sens police, au sens de la cité. Et encore dans les derniers portraits ou les dernières discussions, on dit Goupil, cinéaste engagé. Ah ben, s'il y a un mec qui n'est pas engagé dans ses films, c'est exactement moi. Le cinéaste que je suis, le maximum de mes ambitions, c'est que quelqu'un se pose une question et pas ensemble au même moment. C'est-à-dire qu'apparaisse une interrogation. Les films qui illustrent un discours avec un réalisateur qui est sûr de lui et qui donne une solution, c'est des films que je déteste. Pour éviter qu'on perde du temps dans les discussions, je vais vous donner trois noms. Je déteste Ken Loach, je déteste Michael Moore, je déteste ces films-là où on va prendre une idée simple, une idée progressiste, une idée bien pensante, et on va sans arrêt dérouler le film pour donner l'impression qu'on a tout compris. Mais il y a bien pire que ça, c'est tous mes collègues ou tous mes copains qui acceptent de faire des films de publicité. Pour moi, c'est le comble du comble du film de propagande ou du film politique. Ça, c'est des films politiques. Ça, c'est des films de propagande. Ça, c'est de l'agit-prop, et c'est une chose que j'ai toujours refusé de faire. Pourquoi ? Parce que quand j'étais assistant, je me rappelle qu'on faisait un film pour Ferrodo, j'étais assistant. Donc du côté du patronat et pas du tout du petit patronat, du grand patronat, qui avait commandé un film à Mengoz sur l'automobile. Aussi vaste que ça. Donc on avait le droit d'aller dans toutes les usines, de circuler comme dans les chaînes, ce qu'on voulait, quoi. Et à un moment donné, on est dans un des hauts fourneaux qui a maintenant disparu, un très grand haut fourneau dans le nord de la France. Et les mecs me disent, tu peux filmer, enfin vous, moi je filmais pas, mais vous pouvez filmer à droite, mais vous filmez pas la chaîne à gauche, la chaîne de sortie du haut fourneau. Et je demande même pas pourquoi, je mets la consigne pour les techniciens, on ne filme qu'à droite. Donc il y a l'énorme, le bruit immense de ces hauts fourneaux complètement magnifiques, avec les pièces qui sortent, qui sont ensablées. Il y a encore le sable autour de ces de cette pièce-là. Et là, c'était des quand on passe les vitesses, les boîtes de vitesse. Donc, elles sont désablées dans d'énormes trucs qui font un bruit d'enfer, et sort la pièce. Et après, la pièce est emballée, c'est-à-dire c'était déjà quand même pas mal automatisé, et c'était des embrayages des boîtes de vitesse de Ferrodo. Sur la chaîne à côté, ça sortait exactement du même haut fourneau. Il y avait la même chose, ça désablait, c'était emballé, et ça, le résultat, c'était Flairtex. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau mondial, ils avaient le monopole. Ils disaient, si jamais comme ça un mec gueule en disant « ma boîte de vitesse Ferrodo, elle marche pas », on lui propose, et c'est ce qu'ils avaient, d'énormes réseaux Flairtex. Et si vous étiez pas content d'un Flairtex, on vous conseillait d'aller acheter un Ferrodo. Mais c'était les mêmes, exactement les mêmes, qui sortaient du même haut fourneau. Donc, de cette vision-là que j'ai eue comme assistant, en disant « mais jamais de ma vie, j'irais faire un film de propagande pour Flairtex, Ferrodo ou qui que ce soit pour le camembert ou pour les yaourts. » La façon dont on consacre cet argent immense dans la publicité pour acheter ces metteurs en scène, pour leur faire des clips magnifiques, ça montre bien qu'il y a quelque chose d'anormal. Vous ne pouvez pas être payé 500 000 euros pour une demi-heure. Il y a quelque chose qui est anormal. Et normalement, on devrait refuser, ils devraient refuser, ils acceptent tous. Donc quand ils me disent que je suis un cinéaste engagé, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un énorme fou rire en disant le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vous qui êtes engagé et engagé du mauvais côté.
Vous avez appris quoi auprès des autres en travaillant pour les autres ?
La première chose que je racontais, c'était mon père qui dit « Ok, il était technicien. » C'était d'excellents techniciens. Ils étaient toujours à dîner, à discuter des plans, à discuter des films. Et on entendait, comme enfant, j'entendais. Il dit « Tu dois apprendre la technique. » Mais c'était la photo. Et après, quand il a vu et compris que ce qui m'intéressait par rapport au petit film ou ce que je faisais, c'était la mise en scène, il dit « Tu peux pas savoir la catastrophe que c'est nous, à l'image, qui faisons la mise en scène. » Ils savent pas les raccords, ils savent pas l'objectif, ils savent pas, c'est-à-dire c'est l'opérateur et le cadreur qui font le film, qui l'organisons, et c'est le film des opérateurs et des cadreurs. Si tu veux faire de la mise en scène, et je comprends que tu veuilles faire de la mise en scène, c'est complètement captivant, mais ne sois pas comme eux. Apprends la technique. Et donc, il m'a dit, tu vas faire opérateur, tu vas commencer sur assistant, tu vas travailler au laboratoire, tu verras comment se développent les films, tu vas travailler au montage, tu vas travailler, et je disais, puis quoi encore, j'ai à 50 ans, j'aurais jamais fini tous ces stages. Il dit, bon, enfin, tu verras. Et donc, j'ai commencé à l'écouter, en travaillant comme opérateur. Donc j'ai commencé sur des films avec Boisset, avec d'autres films, avec Ricardo Aranovich, avec des très grands chefs comme opérateur. Après, j'en ai eu marre et j'ai commencé à dire, allez, je voudrais faire de la mise en scène. Et là, tout le monde a dit, mais tu vas pas être stagiaire, on te voit sur tous les films, on te connaît depuis longtemps et t'as fait tes petits films, viens tout de suite comme second. Et comme second, ça a duré un film au lieu des trois films obligatoires. Et j'étais premier assistant sur le film d'Ackerman, premier assistant sur les autres qu'on suivit. Et après, en 80, j'ai dit à Jean-Luc,
Godard,
je lui dis, il me dit, à la suite de thèse de Polanski, il avait entendu Rassam qui lui avait dit qu'il avait un très bon assistant et tout, qui serait, s'il voulait refaire des fictions, et c'était sauf qui peut, il fallait me contacter. Et donc, je vois Jean-Luc, et Jean-Luc dit, alors, il paraît que vous êtes assistant, vous travaillez sur leur film. L'or à eux, aux professionnels de la profession. Voilà mon projet. Est-ce que vous seriez d'accord ? Le projet va pas se faire. Ça va être très dur. Je pense pas que j'y arriverai. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour bosser, qu'on essaye de monter ce truc-là ensemble ? Et là, je lui ai dit, Jean-Luc, vous vous rappelez pas. Je comprends que vous vous rappelez pas, mais moi, je me rappelle tout à fait que quand j'avais 16 ans, à un moment donné, j'avais fait un film que j'avais gagné avec un petit concours feu vert pour l'aventure où j'étais parti avec une petite caméra tout seul pour raconter une histoire. Quand il a été sélectionné et qu'il a été programmé, on cherchait un parrain. Je vous ai écrit une lettre et vous êtes venu parrainer ce film sans l'avoir vu. Il me dit, je me souviens absolument pas de ça. Je dis, mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Le film a été interdit et censuré à l'époque par Pierre Fitte et Fouché parce que j'avais des activités politiques au lycée. Mais moi, le souvenir de comment vous avez lu une lettre d'un môme et sans rien demander, être venu sur le plateau, certes, on s'est super engueulé avec l'ambassadeur d'Espagne, certes, l'émission n'est jamais passée, mais moi, je garde ce souvenir pour toute ma vie. J'en ai tiré deux éléments. J'espère que plus vieux, je doutais de rien, plus vieux quand je serai comme Jean-Luc et que j'aurai fait les films qu'il a fait. Si un môme m'écrit, j'espère d'avoir autant, ou me souvenir d'avoir autant de générosité qu'il a eu. Et après, je lui dis, écoute, je suis à ta disposition le temps que tu veux. Il me dit, mais ça peut durer un an. Je lui dis, le temps que tu veux. Après ce film-là, je ne serai plus jamais assistant. Donc, si tu veux, prends ce temps que tu veux. Il dit, mais il n'y aura pas d'argent. Je dis, je m'en fous, j'ai gagné tellement d'argent sur les derniers films que ça va, c'est tranquille. On mangera et puis c'est tout. Et il ne se souvenait pas du tout de l'aventure. Il ne m'a pas cru du tout sur le fait que j'acceptais de ne pas être payé. Mais enfin, il l'a retenu quelque part dans sa tête parce que pendant 6 mois, je n'ai pas été payé du coup. Après, il a rattrapé. Quand le film s'est fait, il a rattrapé. La façon dont je vais apprendre le cinéma, je vais l'apprendre par la négative. C'est-à-dire, sans arrêt, sur tous les films où j'allais, comme assistant, je me disais, je ne ferai pas comme ça. Je ne ferai pas comme ça. Je ne ferai pas comme ça. Mais on apprend énormément parce que vous voyez un travelling, parce que vous voyez un technicien, mais hors pair, qui est Polanski, vous discutez avec lui, vous êtes sans arrêt sur le plateau, vous discutez le soir, vous discutez le matin sur un plan, c'est incroyablement formateur. Avec Chantal Akerman, on est resté 1 an et demi ensemble pour faire les rendez-vous d'Anna. Donc on était de tous les repérages, de tous les lieux, de tous les acteurs, de tout le casting. C'est pareil, c'est des formations. Mais alors le plus incroyable, c'est bien sûr avec Godard, parce que là, j'avais beau me dire, je ne ferai pas comme ça, mais il faisait encore pire que moi. C'est-à-dire sur le plateau, il faisait non seulement pas comme ça, mais il me sidérait à chaque fois par l'invention, le sens du cadre et le rythme. Ça, c'est lui tout seul après au montage qui va donner au film et notamment à Sauf qui peut.
Alors effectivement, Romain Goupil, vous serez plus assistant après, sauf qui peut, la vie. Jean-Luc Godard, vous réalisez à nouveau 2 courts-métrages, début des années 80, et puis 82, c'est donc Mourir à 30 ans, qui reçoit la Caméra d'Or au Festival de Cannes, et qui aura le César de la meilleure première œuvre en 1983. Donc le film est sorti cette année, est ressorti en version restaurée. Quel regard vous portez sur lui ?
Ah, j'ai un regard de vieillard maintenant, parce que après chaque film, que ça soit ce film-là ou tous les autres films, après chaque plan, on arrêtait, on se retournait vers l'assistant que j'avais été, et on lui disait, est-ce qu'il y a un poil caméra ? C'est-à-dire que le support argentique, que ça soit du 16 ou du 35, sur les côtés peut laisser des petites brides qui viennent devant l'image. Et donc, on doit absolument vérifier, en enlevant la fenêtre, le cadre, voir s'il n'y a aucun poil qui est venu gêner, parce qu'il n'y a pas de retour vidéo, on ne voit pas. Ça va être envoyé au laboratoire, donc s'il y a un poil, ça fout tout en l'air. Il faut absolument pas être que ça risque, il y a un risque technique. Donc, on regarde s'il y a le poil. Et on attend tous pendant 1 minute, si l'assistant est bon, en 1 minute, il regarde, il dit pas de poil, donc on peut faire tirer cette prise ou en recommencer. Mais si jamais il y a un poil, il n'y a aucune contestation sur l'équipe, aucune contestation d'aucun acteur, quel qu'il soit, star ou pas star, et on recommence la scène pour un poil caméra. Donc il nettoie avec, une petite poire, et on recommence la scène. Le fait qu'on dise plus poil caméra, déjà, j'ai trouvé ça triste avec ces caméras vidéo dans les derniers films que j'ai faits. Mais alors quand il s'est agi de faire la remasterisation, c'est-à-dire de remettre tout le film, toutes ces archives incroyables qui sont en 8 mm, Super 8, 16, Super 16, 35, noir et blanc, couleur, l'incroyable boulot qui était Mourir à 30 ans et qu'il a fallu le remasteriser, alors là, la tristesse était infinie parce que le technicien et les techniciens et tout un service m'a proposé de le nettoyer, c'est-à-dire d'enlever tous les poils qu'il y avait, puisque c'était une vieille copie, parce que c'était filmé avec des caméras merdeuses, parce que l'assistant à l'époque, eh ben, il fallait tourner dans les manifs, et puis on tournait, puis il y a un poil, on s'en fout du poil à l'époque. Et il y a dans le Mourir à 30 ans, énormément de poils ou de petits pâtés ou de trucs bizarres et de rayures. Et eux proposaient de tout remettre
propre,
nickel. Et il a fallu que j'écrive un mail en disant je veux que mon film soit poilu. Je me suis tellement habitué à des poils que si vous l'enlevez, c'est plus Mourir à 30 ans. Donc on a rigolé, ils ont mis le mail, c'est passé dans les services et on dit allez pour Goupil, on va lui faire un film poilu. Donc tout le contraire du boulot pour lequel ils sont payés, de tout nettoyer pour que ça soit nickel et que ça ressemble à ces merdes qui sont faites à la télé où c'est en HD, en super, tout est propre. Comme les films porno, quoi. C'est-à-dire, c'est nul, absolument nul. J'ai du mal avec le numérique, j'ai du mal avec le manque de profondeur, j'ai du mal avec le manque d'épaisseur de l'image, mais au moins laissez-moi un poil pour. Donc, dans la copie qu'on verra, il y a des poils qui sont restés, mais il a fallu les compter et dire allez, je me suis là, quoi.
Alors, depuis Mourir à 30 ans, Romain Goupil, il y a eu beaucoup de films, dont le point commun serait peut-être de ne pas en avoir, ou alors d'être tellement libre que d'un film à l'autre, on peut toujours réinventer. On va quand même voir qu'il y a des sillons qui sont creusés. Peut-être pour cette masterclass de France Culture, on va essayer de savoir quel est le processus de création. Au point de départ d'un film, il y a quoi ? Il y a une image, il y a une idée, il y a un sujet ?
Le point de départ du film, ça va être la période que je préfère, qui vont être la conception et surtout les repérages. C'est-à-dire où on imagine ce que va devenir l'image. Et ça m'était pas trop compliqué à cause de la photographie, à cause du fait que j'avais été opérateur ou assistant opérateur. Donc, je vais et je m'imagine le film, les scènes, le fonctionnement. Au tout début, c'est plutôt l'écriture et l'image qui va avec l'écriture, c'est-à-dire le fonctionnement. Et après, la loi absolue de film en film, c'est de mettre le plus précisément le décor, le dialogue, le plan. Comme assistant, c'était mon boulot de caler les plans d'oreiller, et que tout ça saute. Au moment du tournage. C'est-à-dire que arrive quelque chose et je suis extrêmement attentif à ce qui se passe autre chose que ce que j'ai prévu. Autre chose, puisque ce que j'ai prévu, je m'en fous. Si ça se passe pas, on filme ce que j'ai prévu. Mais je guette incroyablement. Donc il y a une consigne sur tous les tournages, c'est surtout personne ne coupe. Personne ne coupe avant que j'ai dit couper. Si jamais il y a un incident, si quelqu'un tombe, si il y a un truc dangereux qui se passe ou un truc imprévu ou quelqu'un qui rentre dans le champ, c'est moi qui estime si cet incident est profitable, va entraîner quelque chose ou pas, mais personne d'autre. Alors que les opérateurs, par réflexe, ils coupent puisque c'est pas ce qui était prévu. Donc il faut une incroyable engueulade en début de film ou quand ça se passe pour dire j'ai dit que personne ne coupait et surtout pas un ingénieur du son et surtout pas un technicien derrière qui voit que la tour va tomber ou que le projecteur va tomber. Ça peut m'intéresser. S'il y a un drame, on coupe ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est s'il se passe quelque chose de plus, un silence, une hésitation, la prise, même si l'acteur demande, on coupe parce qu'il sait je laisse tourner. Et très souvent dans les films, je garde le moment justement où se révèle quelque chose dans ce qui n'était pas prévu. Je guette sans arrêt. Le contraire absolu d'Haneke. Le contraire absolu. C'est-à-dire, il écrit ses films avec un storyboard, et si jamais il y a une scène où il y a du soleil et qu'il pleut le jour où ils doivent tourner, ils ne tournent pas, tout simplement, ils ne tournent pas. Moi, si j'ai pensé la scène avec du soleil qui se met à pleuvoir et qu'il y a un orage, je suis aux anges. Aux anges, on va chercher, improviser, organiser autrement la scène. Donc, il faut des équipes que je connais parfaitement, avec qui j'ai déjà bossé, et on fonctionne comme ça, comme une troupe de théâtre ou comme une bande, comme un clan, en disant « Ah ouais, on va choper ce truc-là ». Et d'eux-mêmes, ils proposent en disant « Mais est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à côté ?» Et hop, on peut rajouter sans arrêt des plans, sans arrêt des séquences, un dialogue, c'est ça qui me plaît. C'est d'aller au-delà de ce qui a été prévu sur le script.
Alors ça, ça nous renseigne sur le moment du tournage, Romain Goupil, mais la question, c'était vraiment le point de départ. C'est-à-dire, ça va être quoi le sujet du prochain film? Ça va être quoi l'idée? Est-ce que c'est l'envie de filmer quelqu'un? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un air du temps? Est-ce que c'est une interrogation personnelle?
C'est là, pour le coup, je peux répondre qu'en mentant à cause de mon grand âge. C'est-à-dire que je peux comprendre peut-être vaguement maintenant ce qui m'a animé ou comment ça s'est fait. En fait, intuitivement, quand je commence un film à une date et je l'arrête à une date, par exemple 65, 73, ou 62, 73 pour Mourir à 30 ans. L'autre, je le commence toujours 73, 86. Et après, le suivant, 86, 92. Donc, ce que je faisais inconsciemment, et ce qui doit être le moteur du cinéma, est un truc extrêmement bizarre, qui serait plus de l'ordre des confessions d'un enfant du siècle. C'est-à-dire qu'on pourrait enlever tous les génériques des films et les coller les uns après les autres. Et là, on aurait un immense film qui raconte, avec des formes complètement différentes, avec des mises en scène complètement différentes, mais qui quand même raconte ce sujet incroyable en disant, voilà ce môme qui adorait le cinéma et qui sait des petites images en 62, comment ça évolue. Et bien sûr que là, ça va croiser sans arrêt l'histoire, ça va la croiser dans Mourir à 30 ans, ça va la croiser dans L'aide pour elle, tous les drames, les morts, les disparitions, Sarajevo, la Tchétchénie, les mobilisations permanentes et continues sur les réfugiés, tout ça va se retrouver dans le film. Mais c'est pas du tout un tract, c'est pas du tout un texte. Ça va, je suis assez grand pour faire les meetings que je fais, de faire les textes que je fais, où là, c'est très binaire. Si on doit attaquer l'ambassade de France qui veut pas intervenir à Sarajevo, eh ben là, il y a pas, je vais pas m'amuser à dire oui, peut-être, mais c'est on y va. S'il faut lever l'embargo sur les armes pour les Bosniaques, je vais pas m'amuser à tergiverser. Dans le film, dans un film ou les films que je fais, il y a jamais ça. Jamais, je ne dis, la solution, c'est ça. Ah, c'est encore plus incroyable que ça. Dès que j'avance une image, elle est contredite par le son. Dès que j'avance un son qui affirme quelque chose, je le contredis par l'image. Si bien que le spectateur, au bout d'un moment, de film en film, ne vient plus. En se disant, putain, c'est encore un film de Goupil. Alors ceux-là, ils sont particulièrement imbitables. Parce qu'ils nous... Il avance sur une image et après il vient la contredire par un son. Il avance sur un son qui nous réconforte. Les films, c'est consolant. On espère avoir une vision du monde. On espère avoir une explication du monde. C'est pour ça qu'on adore Ken Loach, qu'on adore Guédiguian ou qu'on adore ce connard de Michael Moore. C'est les films qui nous donnent une solution, qui pensent qu'on est intelligent, qui pensent qu'on comprend quelque chose au monde. Mais le monde, c'est un chaos infini. Un chaos terrible et la répétition de trucs de plus en plus monstrueux. La preuve par la Syrie. Donc je me garderais bien de donner quelques situations ou quelques solutions que ce soit dans un de mes films. Mais par contre, qu'on s'interroge, qu'il y ait des associations d'idées, qu'à un moment quelqu'un se dise « Ah ouais, mais putain, mais moi je pense exactement ça. » Mais pas au même moment dans la salle. Le fait d'enfermer tout le monde dans une salle noire, avec vous réagissez exactement au même moment, au même instant, avec la musique, avec les plans, avec les cadres, c'est pas mon boulot. C'est le boulot de Cameron avec cette grosse merde du Titanic. Ces films-là où des milliards, des centaines de millions de gens réagissent en même temps à la même chose, au même effet. C'est-à-dire c'est l'organisation et c'est ça le talent de ces réalisateurs-là. C'est de réussir à faire que 800 millions de personnes sautent exactement au même moment, moi compris, dans leur siège quand on voit les dents de la mer. C'est leur boulot. Ce n'est pas mon boulot. Ce n'est pas du tout mon boulot de faire en sorte que je sois content d'avoir fait un plan où tout le monde pense la même chose au même moment. C'est tout le contraire en ce qui me concerne. On dit le cinéma, il n'y a pas de recette. Il n'y a que des recettes. Elles sont simplement très mal appliquées par des metteurs en scène sans talent, sans aucun talent, et qui me bouffent à chaque coup 2 heures de mon temps puisque je vais regarder leur merde au cinéma alors que j'aurais plus de plaisir à venir ici, à une exposition ou à me balader ou sortir boire un pot. Ces films me fatiguent, je deviens vieux, je deviens intolérant. J'en ai marre du mec qui va sortir de sa bagnole, puisque après, je sais qu'il va re-rentrer dans sa voiture. Après, il va me dire où il va aller avec sa voiture. Après, je sais forcément que s'il y a une fille, ben, soit ils vont s'engueuler, soit ils vont s'embrasser. Je n'y trouve plus aucun plaisir, ou quasiment plus aucun plaisir, dans ces films qui sont de l'ordre de la répétition. C'est-à-dire des choses qui m'amusaient quand j'avais 15-16 ans, parce que je ne les connaissais pas. Disons que maintenant, 50 ou 60 ans après, je vois un film et dès le début, j'en ai marre. Ça me fatigue, quoi, parce que je sais qu'il va y avoir un début qui va entraîner un milieu où va se développer l'histoire et que forcément elle va être conclue, qu'il va y avoir une fin de l'histoire. Ça ne me captive pas. Je préfère lire à mon rythme un bouquin et de manière complètement différente de quiconque d'autre autour de moi, et par contre d'en parler avec énormément de plaisir après.
Mais pour autant, Romain Goupil, moi, en cherchant hier dans la grande toile, je retrouvais cette photo où on voit Steven Spielberg vous remettre la caméra d'or à Cannes, parce qu'il se trouve que c'était lui. Moi, je trouvais ça réjouissant de voir sur cette même image deux cinéastes qui font des films aussi différents. Et quand on parlait ensemble avant cette masterclass, vous me disiez que vous considériez pas mieux que les autres, que ce qui est important, c'est que tous ces cinémas puissent coexister. Et puis vous allez quand même toujours beaucoup au cinéma, même si là vous envoyez quelques scuds, pour reprendre un vocabulaire guerrier.
Je parle des cinéastes français qui me lassent et qui me fatiguent. Mais cela dit, c'est vrai pour Spielberg, mais je lui ai rendu hommage en disant que Les Dents de la Mer ou Duel, qui est un film absolument magnifique, ou le fait que je me reconnais en Steven Spielberg. Le fait qu'il ait commencé vers 12-13 ans avec ses petites caméras, les mêmes, quand on voit les photos, je reconnais la Pathé Webo, je reconnais les tourelles, je reconnais quel appétit, quelle envie il a de faire des films pour distraire, parce que le monde va pas bien, et son boulot, lui, c'est de penser sur 800 ou 900 millions de personnes, comment il va réussir un effet. C'est pas mon fonctionnement. Et pourquoi ? Parce qu'à la différence de Spielberg, moi, je sais qu'à un moment donné, dans mon histoire, j'ai pris la parole, j'étais dans des situations où je disais « on y va », parce que j'étais responsable, dirigeant, leader des lycéens en 68 et après du service d'ordre dans les années qui vont suivre, donc de l'appareil. Et il y a des moments où le fait de déclencher une manifestation, de déclencher l'attaque d'une ambassade, de faire tout ça pour de vrai, a mis le cinéma quelque part comme quelque chose pour de faux. Où à chaque coup, j'ai du mal dans les plans à avoir ce truc où les mecs jouent leur existence sur un plan, sur une scène, là où c'est comme un placebo. Là où l'adrénaline était la plus forte, là où le contentement de quelque chose de réussi était le plus fort, c'est une manif réussie. C'est ce qu'il y a dans Mourir à 30 ans sur le 21 juin 73. C'est une manif absolument incroyable au niveau de l'organisation, du fonctionnement, de la prise de risque, sauf qu'elle est pré-terroriste. On atteint les limites absolues d'un fonctionnement de guerre civile. Il n'y a aucun blessé chez nous. On a des groupes mobiles avec tous les cocktails Molotov et des barres de fer. On est tous casqués. Et là, pour la première fois, les flics vont avoir 200 ou 280 blessés. Parce qu'on n'hésite pas, on a tout organisé pour que ça se passe comme ça. Et là, après, vous me parlez d'un film et du plaisir à faire une séquence. Il est 1000 fois moindre que quand on a fait de la politique et quand on peut en parler comme ça ensemble, où je sais que j'ai pas de sang sur les mains, où je sais que ça n'a pas entraîné de mort, où je sais que ça n'a pas dérivé, alors que ça aurait très bien pu en 73, mais après, Je vais faire du cinéma, pour distraire les gens de ce qui se passe dans le monde. Disons que ça n'a pas été ma formation. C'est pas comme ça. Ça a été ma formation au début, mais à partir du moment où ils ont interdit les deux films pour activité politique, ils ont interdit Ibiza et l'exclu, un très haut niveau de l'État, c'est-à-dire Pierre Fitte et puis les signatures du ministère de l'Intérieur et des ministères de l'Information de l'époque. C'était deux films que j'ai fait avec tellement de plaisir, ces deux films. J'étais tellement émerveillé quand j'étais môme que ces films soient programmés à la télévision. Il n'y avait qu'une chaîne à l'époque. Vous imaginez pas ce que ça peut représenter de gagner ces concours, de faire ces films, d'être choisi et d'être programmé. Où il y avait déjà les critiques qui étaient excellentes d'ailleurs. Et que c'est programmé et vous êtes devant l'écran et là, ils mettent un petit carton comme quoi le film est déprogrammé. Et pire que ça, pour l'exclu, ils vont l'effacer. C'est-à-dire que le soir de la décision de ne pas le programmer, ils ne vont pas du tout le garder, ils ne vont pas du tout le conserver, ils vont l'effacer. Si bien que moi, je n'ai aucune mémoire, je pense qu'il y a une photo qu'a pris Nicole Higelin à l'époque, la femme d'Higelin, mais je n'ai rien, absolument rien sur ce film. Alors qu'on dit que sur les premiers films, son contenu, toute votre cinématographie qui va suivre. Ah bah alors moi, pour le coup, elle est annulée dès le premier court-métrage.
Ça veut dire, Romain Goupil, qu'après ces deux premiers courts-métrages censurés, il n'y a jamais eu le même plaisir à faire du cinéma ?
Non, parce que je me suis dit, puisque c'est ainsi, j'avais consacré mon énergie, mon temps, mes envies, mon plaisir à faire du cinéma, j'ai fait ces deux films. Ils sont censurés. Là, je dis, OK, puisque c'est comme ça, toute l'énergie que j'ai, je vais la consacrer à faire en sorte que ça soit plus possible, ça. La censure, l'interdiction politique, la décision d'un ou d'autres hommes politiques. Et on va se battre dans les lycées au point de créer les comités. Enfin, je vais me faire virer. On crée les comités d'action lycéens. C'est le pendant du 22 mars. Et on est prêts, nous, le 22 mars avec Cohn-Bendit et moi et les copains pour le CAL, à lancer ce qui va être mai 68. Mais les pavés que j'ai lancés le 10 mai et après tout ce qui a suivi, je les ai lancés avec énormément de plaisir. Et le fait que De Gaulle démissionne, ça a été un immense plaisir. Et le fait que ce gouvernement soit complètement affolé et ait pris leur DS avec leur fric pour se barrer ensuite, ça a été un immense plaisir. Je le prenais personnellement, moi. C'est-à-dire que la virulence qu'on avait, la folie qui nous animait, elle était, en tout cas pour moi, dictée par « Ah bordel, ça va changer, quoi. Quelque chose va changer. »
Oui, mais donc il faut attendre 82 et mourir à 30 ans pour vraiment cette entrée dans le monde du cinéma, on va dire professionnel, mais c'est avec un film de deuil, malgré tout, que se fait cette entrée-là.
Sur mourir à 30 ans, c'est bien plus invraisemblable que ça. Quand j'apprends sa mort, et c'est raconté dans Mourir à 30 ans, si quelques-uns le voient après, il disparaît en 78. Les parents.
Faut dire de qui vous parlez ?
De Michel Recalati, qui est mon meilleur copain et qui était le double. Mon double, ou moi j'étais son double, et le fait d'être à deux dans une organisation d'extrême gauche, c'est un avantage incroyable par rapport à chacun qui se défend tout seul pour arriver, pour les places, pour le commandement, pour la direction. Le fait d'être à deux fait déjà un mini complot qui permet d'avancer. C'est comme ça qu'on a avancé, nous, depuis les années 66, toujours avec Michel Recalati. Et donc, il est devenu membre du bureau politique, moi responsable du service d'ordre, mais à deux. Et quand il va disparaître en 78, c'est un immense drame. Où est-ce qu'il a pu disparaître ? Et là, chacun a une espérance. Il est parti au Larzac, il est parti en Amérique latine, il est parti ci, il est parti ça. Donc je dis à la famille de ne pas porter plainte et qu'on va remonter toutes les pistes. Ce que je fais pendant 2 ans, j'essaye de trouver sa trace jusqu'au moment où le beau-père Jean Recalati meurt. Et là, il y a une loi en France ou partout, je pense, qui fait que quand il y a une histoire d'héritage, il faut absolument que tous les enfants en disent où ils sont, s'ils ont disparu, s'ils sont morts, s'ils sont vivants, pour répartir l'héritage. Et là, il a fallu dire il a disparu. Les flics ont dit, comment ça, il a disparu? On a dit, il a disparu le 23 mars 78. Et là, ils ont cherché disparition 23 mars 78 et ils ont montré les photos du cadavre et où il était enterré dans une fosse commune parce qu'ils n'avaient pas fait la relation avec... Il s'était jeté sous un train à Enghien. C'était pas la police de maintenant avec les ordinateurs. C'était bordélique avec les empreintes digitales. Pourtant, il avait fait de la prison et il en était hyper surveillé. Bon, c'est bizarre, c'est comme ça. La connexion s'est jamais faite. Elle a été faite en 81 et c'est là où je déclenche le film en disant, après toutes ces recherches, pendant 2 ans de vaines recherches, il est mort. Eh ben, il sera pas mort pour toujours ou mort pour moi ou mort pour tous les copains. Je vais raconter son histoire. Et ce film était uniquement destiné à 300 personnes. Il était très loin de moi. L'idée qu'à un moment donné, Karmitz allait le montrer à quelqu'un et que ce film allait être diffusé. Je n'y ai jamais pensé. Ce film était simplement pour les 300 copains, qui sont les 300 de 68, grosso modo. Cette projection a eu lieu. Le film a été accueilli par ces 300 copains et ces 300 copains sont toujours la base de ceux qui, encore pour le dernier film, La Traversée, que j'invite en premier. Il y en a plein qui sont morts, mais disons que je m'appuie toujours sur ces 300, sur cette liste de 300. Moi, je fais du cinéma pour 300 personnes depuis le début. Je fais pas du cinéma pour le public, je fais pas du cinéma pour ça veut rien dire pour moi. J'essaye qu'à ces projections ou autour de ces projections avec les 300 et les copains qui ont disparu, de montrer comment je me préoccupe, comment j'avance, comment je fonctionne. Mais ce film, ça a été très très loin d'être conçu pour un film qui soit distribué, aille au cinéma et obtienne toutes les récompenses qu'il a obtenues. Ça, c'était pas du tout pensé.
Alors, on revient, Romain Goupil, dans cette masterclass de France Culture sur le travail concret, sur comment vous fabriquez des films. On en a parlé aussi en préparant cette émission, de cette économie soviétique. De l'économie dépend la fabrication, très, très logiquement. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi la méthode Goupil pour ça?
C'est de savoir quel est le budget qu'on a. Et autour de ce budget-là, avec peu d'argent, comment devenir riche? C'est-à-dire comment l'utiliser? Donc pas le répartir au niveau comptable par 30 jours, donc on divise la somme par 30 par exemple. C'est de dire je vais consacrer une immense part sur un plan, par exemple dans L'aide pour elle, où je veux 400 figurants et je veux un orchestre symphonique sur les coursives. Là, c'est de l'argent. Et après, par contre, je prendrai ou j'éviterai de prendre les gens dans la rue. Il n'y aura pas aucun figurant, je m'en fous. Je prendrai le départ de la bagnole comme ça, sans maîtriser ni les places de bagnole pour qu'il y ait des gens qui doivent garder les places de voiture et tout. Donc, je vais être très, très lié, toujours, à l'économie et même très précisément jour par jour à l'argent qu'on a dépensé, l'argent que j'envisageais de dépenser et les dépassements pour pouvoir le rattraper et toujours, toujours, toute ma vie faire des opérations blanches, c'est-à-dire de pas faire courir de risques à la production. Les films que je fais, c'est pas des films commerciaux, c'est des films qui vont avoir du mal, sauf s'il y a un peu de chance à être suivi par le public ou le public rejoigne le film. C'est des films que je fais en toute liberté et je sais que ça a des conséquences par rapport au commerce et par rapport à la sortie de ces films. Donc je vais faire en sorte que on s'y retrouve pour pouvoir faire le suivant, de pas faire perdre de l'argent à ceux qui m'ont fait confiance et de pouvoir avancer après sur le film suivant. Mais ça veut dire que la cadence de production est extrêmement ralentie. C'est au mieux un film tous les 3 ans avec ce système-là, parce que le temps de retrouver de l'argent, le temps de remettre en place le scénario, je ne chevauche jamais. C'est-à-dire quand je suis en train de faire quelque chose, on va pas me proposer un bouquin adapté pour faire un film qui sortirait dans les salles en 2017 et puis après je travaille sur autre chose. Non, jamais. C'est-à-dire je vais faire les choses une à une et toujours en consacrant énormément d'énergie, avec plaisir, hein, à l'économie du film. La façon dont on va dépenser l'argent et la façon dont l'équipe va fonctionner, c'est-à-dire le choix des gens, le rapport qu'on a avec l'argent sur le film, le choix de la pellicule, enfin bon, tout ce qui va entraîner des dépenses, on est tous au courant et c'est complètement transparent sur le film. Par rapport même au salaire des comédiens, des comédiennes, à mon salaire, tout ça est public. Enfin, et transparent sur le film.
Alors, oui, donc ça fait des choix formels extrêmement précis. Autre exemple assez parlant, c'est sur les jours venus où tout d'un coup, il y a une scène qui nécessite une grue. Donc l'argent, il va aller là. Donc ça, c'est le choix vraiment d'écriture, de l'auteur, du cinéaste. Mais sur les documentaires, comment ça se passe? Pourquoi il y a cette alternance chez vous de courts, de longs, de documentaires? Est-ce que là aussi c'est économique ou est-ce que c'est le sujet qui l'impose tout
là,
d'un
c'est,
coup
c'est sanitaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment de 2 ans passés sur un film avec la même direction de production, la même production et les mêmes équipes, j'en ai marre. J'en ai marre qu'ils viennent sans arrêt pleurnicher parce que ils ont pas ci, ils ont pas ça, il y a pas ci, il y a pas ça. Enfin, c'est l'art du compromis, un tournage. Il y a jamais assez d'argent. Moi, au bout d'un moment, je vais dire bon, je m'en fous des chaussettes jaunes, alors que je tenais plus que tout à ce que tous les figurants aient des chaussettes jaunes. Quand je vois le bordel que ça fait, au bout d'un moment, je laisse tomber. Mais je m'en souviens en me disant ces enfoirés qui veulent pas m'amener ces chaussettes jaunes. Donc, je me venge. Et je tourne plus avec eux pendant 6 mois parce que je vais faire un documentaire tout seul où je reprends la caméra. Donc c'est une façon saine de nouveau avoir envie de retravailler avec eux. C'est-à-dire qu'on se sépare. Eux sont très contents qu'on n'enchaîne pas parce que de toute façon ils sont moins payés, parce que c'est dur, parce que ça gueule. Donc tout le monde prend des vacances et après on remet en film ensemble si on peut se retrouver pour le film suivant. Je m'appuie sur le fait qu'ils font des films où ils sont mieux payés, des films où ils sont un peu plus tranquilles, où ils mangent mieux, si bien après je les retrouve en forme. Et moi, j'ai le temps aussi de voir qu'il y a des films, des grosses merdes, qui ont incroyablement bien fonctionné. Ça rapporte de l'argent au centre du cinéma, puisqu'on prend 13% sur chaque entrée, et ça redonne un petit peu de possibilité d'aller pleurnicher au CNC pour obtenir une partie du financement. Donc c'est bon pour tout le monde. Et puis de toute façon, je ferai un film tous les ans. Au secours les spectateurs. Enfin, au secours les producteurs aussi.
Bah, justement, l'envie aussi parfois d'être un peu seul. La plupart des scénarios, vous les écrivez seul. Parce que c'est mieux comme ça? Parce que vous préférez ce moment-là dans une solitude? Ou est-ce qu'à un moment donné, quand même, il y a quelqu'un à qui vous faites lire un état du projet?
Il y a plein de monde avec qui je me sers, mais j'essaye de pas l'officialiser parce que sans ça, il demanderait des sous. Donc, en cachette, je vais voir plein de monde, je fais lire, ils participent au dialogue, au plan, des discussions infernales même sur avant, mais souvent, ils sont pas crédités, sauf dans une vague truc à la fin où il y a marqué remerciements. Ça mange pas de pain. Et en fait, on voit dans les remerciements qu'il y a quand même une série de copains qui sont là autour, qui lisent, et surtout de copines d'ailleurs. Mais ils sont tous crédités dans les remerciements. Ils sont pas crédités à scénario. Parce que sans ça, il faudrait que je partage les droits d'auteur. Alors là, c'est hors de question.
Ben, ils sont importants, ces regards extérieurs?
Ils sont capitales. Je vois mal comment les films pourraient se faire si j'avais pas ce rapport sur... la façon dont je j'arrive pas des fois à cerner une idée, à bien l'expliquer, j'ai besoin sans arrêt de ce regard extérieur. Mais j'évite de l'avoir avec les techniciens avec qui je vais bosser. Ils ont le scénario, mais on a des discussions. Mais je préfère que ça soit à côté, autour du film, une espèce de task force, enfin je sais pas quoi, de cellule secrète sur le scénario.
Toujours le goût de l'organisation secrète quand même. Mais tout à l'heure, vous disiez, Romain Goupil, que ce que vous préfériez, c'était le moment de la préparation. Mais j'imagine que le moment d'écriture est un beau moment. Et le cinéma, il associe... Voilà, il y a l'écriture, il y a la préparation, il y a le tournage, il y a le montage, le mixage.
Mais la préparation, pour moi, c'est parce que ça me rapproche énormément de la période bénie dont je disais avec des sanglots et des trémolos dans la voix, de préparer une action. De préparer l'attaque de l'ambassade des États-Unis demande des repérages d'une précision parce que là vous engagez, allez soyons pas la vie, mais disons la prison, les blessures, les arrestations de plein de ceux que vous allez entraîner sur cette aventure. Donc le plaisir qu'il y a d'anticiper, d'être en repérage et de dire alors là ils arrivent de là, alors là le barrage va être là, après de faire des plans, de retourner, de se gourer dans les hypothèses, de tenir compte des aventures précédentes et tout, c'est le moment où je rêve complètement, c'est-à-dire je rêve du film qui va se passer. Après, bien sûr que l'attaque de l'ambassade va pas exactement se passer comme ça, ou le film va pas exactement se passer comme ça, mais quand même au plus près. Mais comme le film c'est pour de faux, c'est là que c'est pour ça que j'adore les accidents sur le tournage, parce que plus fort que moi, il y a le destin, il y a l'existence, il y a la météo, plus fort que moi. J'ai beau tout prévoir, il va y avoir un incident qui va changer le cours d'un truc qui est prévu. Pour une attaque, pour un casse, pour une opération antifasciste, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait un truc qui vienne entraver la mécanique. Parce que là, ça veut dire arrestation, blessure, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, du coup, j'étais et on était d'une extrême précision pour l'organisation de ça. Mais ça m'a laissé... C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je suis hors pérage, je me mets à rêver de l'action. Mais ce n'est pas une action. C'est le film tel qu'il va être. Et ça va, le film, il n'y a pas mort d'homme. Donc, mais c'est quand même le moment que je préfère.
Et le moment du montage, vous qui justement dites toujours il ne faut pas couper tant que je n'ai pas dit de couper, vous qui attendez l'accident, ça veut dire qu'il y a des prises très différentes d'une à l'autre. Le montage, ce n'est pas un moment que vous aimez ?
Moins. C'est un moment que j'aime moins. C'est pourtant là le moment le plus important où va se faire les choix, où va se faire le rythme et tout. J'aime bien arriver très vite... à l'ours pour avoir une conception globale.
Le premier montage,
c'est
bout
ça,
à bout.
Le premier montage, vite, on colle, et bien sûr avec moi tout le temps, et heure après heure, minute après minute, pour avoir l'ensemble. Et après, de faire suffisamment confiance à la monteuse ou au monteur pour lui dire, vas-y, moi je le fais comme ça. Je te laisse la matinée, ça te fera, tu vas pouvoir respirer, je serai plus sur ton dos, propose-moi autre chose de complètement différent, de ces fameux accidents, en disant, peut-être que l'association de deux plans ou trois plans auxquels moi je me suis buté, parce que le repérage, parce que l'acteur, parce que des trucs idiots, ou presque, je sais pas, un peu, je tiens à ça, je sais même plus pourquoi, peut-être que de le remettre en cause en laissant la monteuse le faire, et de proposer, et après, bien entendu, je ne vais pas prendre son montage, mais je vais m'en servir pour avancer. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on avance, en s'amusant, en déconnant, et de manière pas stressée. J'ai pas l'impression que ma vie va dépendre de l'œuvre qui va sortir du montage. En fait, la loi en ce qui me concerne, c'est de pas me prendre au sérieux. Alors, et là, ça paraît bizarre parce qu'on discute vachement sérieusement, parce que je donne des éléments et tout, mais le principe général, quand même, c'est de dire tout ça est pour de faux, et ça va. Par exemple, je ne supporte pas, pour donner un exemple de ça, je ne supporte pas dans la préparation qu'un assistant prenne des risques pour aller chercher une chaussette jaune. Je ne supporte pas, si jamais j'entends qu'il va y avoir un accident ou qu'un môme ou qu'un stagiaire a été trop vite pour ramener ça sur le plateau, c'est une idée qui m'obsède en disant quelqu'un qui risquerait de prendre un risque ou un incident sur un tournage, c'est-à-dire le tournage n'est pas suffisamment, par manque d'argent, protégé sur une route et tout d'un coup... quelque chose arriverait. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est une angoisse à tous les tournages. Je prends toute l'équipe et je le refais en milieu de tournage en disant, attention, je ne supporterai pas, même si je vous ai demandé en gueulant que pourquoi il n'y a pas ça, re-respirez, réfléchissez et rien ne vaut. Rien ne vaut. Aucune image au monde, aucun film ne vaut qu'il y ait quelqu'un qui soit blessé ou qui prenne des risques pour... une lubie comme ça, parce que je veux des chaussettes jaunes tout de suite, je ne tournerai pas si je n'ai pas mes chaussettes jaunes, réfléchissez. Et donc je mets bien en garde, et les assistants, et les stagiaires surtout, de faire très attention, et en bagnole, et le soir, et en allant chercher les gens qui prennent aucun risque. Ça ne vaut pas le film.
Alors justement, après tout ce qu'on a dit, comme on s'achemine vers la fin de votre masterclass, Romain Goupil, qu'est-ce qui vous donne quand même toujours envie de faire un autre film après celui que vous venez de terminer? Pourquoi toujours un autre film?
Ah non, mais
ça pourrait s'arrêter?
Ah ouais, moi mon rêve, c'était que ça s'arrête avec Les Jours Venus. Le titre était génial.
Bon, c'est il y a 4 ans, c'est pas si vieux.
Non, mais le titre... D'accord, mais quand je le faisais, j'ai dit, c'est Les Jours Venus, c'est l'histoire d'un mec qui a 60 ans et tout d'un coup, il reçoit une lettre, on lui dit, bah maintenant, vous êtes plus intermittent du spectacle, il faut que vous mettiez dans la caisse de retraite. Donc, faut recomposer toute votre vie et c'est le thème du film, du fonctionnement. Et je pensais, ou j'espérais, que c'était mon dernier film, que je me moquais, que je faisais un pied de nez, que je m'amusais avec le cinéma, avec le plaisir d'avoir fait des films, et que c'était le dernier. Il se trouve que ce film n'a pas marché du tout. Alors, des films qui n'ont pas marché, ça j'en ai fait, mais il n'y a pas marché et pas marché. Celui-là, l'idée, les spectateurs en disant « Non, Goupil, plus l'histoire de la retraite, plus il va nous bassiner pendant 1h30 avec ses bavardages », ils n'y ont pas été. Alors eux, ils sont malins, ils se sont dit « Ah ça, ben, celui-là, on n'y va pas ». Donc du coup, ils m'obligent à en refaire un. Ça leur apprendra à vivre. Ce film aurait marché, je me serais arrêté. Puisqu'ils ne sont pas venus, je vais en refaire un qui est de l'ordre de mon dernier plan ou un genre de testament. Et puis là, ils ont intérêt à y aller en masse. Comme ça, ils seront tranquilles. Ça sera le dernier. Si jamais ça ne marche pas, eh ben ok, j'en referai un autre et ainsi de suite. Quoi.
Jusqu'à arriver aux fraises sauvages de Romain Goupil. C'est ça. Mais alors, pour finir là-dessus, Romain Goupil, on a parlé de Mourir à 30 ans, évidemment, qui est un film tombeau, comme on le dit en littérature. La question de la postérité, est-ce qu'elle se pose? Comment vous la posez pour vous?
Ce que j'ai dit tout à l'heure, un truc que j'osais pas dire ou j'osais pas formuler de cette manière-là, parce que j'étais plus jeune, parce que je trouvais que les mots sonnaient un peu de manière grandiloquente ou un peu prétentieux. Ou maintenant, je m'en fous. C'est les confessions d'un enfant du siècle. En fait, c'est qu'un film. De Mourir à 30 ans, excepté Maman, mais qui est un film de commande, c'est le seul. Mais de Mourir à 30 ans au jour venu, vous pouvez suivre de 5 ans ou 6 ans à chaque coup, que ce soit moi comme acteur ou pas comme acteur, je raconte cette histoire incroyable du 20e et début du 21e siècle. C'est extrêmement prétentieux, mais j'en ai vu une version comme ça, invitée à Grenoble, où ils avaient mis 3 films qui suivaient, je leur avais dit, pour voir. Et on a regardé les 3 films les uns après les autres et ça donne un sentiment absolument incroyable de raconter l'histoire d'un môme qu'on voit grandir, qu'on voit changer, qu'on voit même raisonner différemment, changer dans ses expressions, dans ce qu'il affirme, dans son fonctionnement. C'est un incroyable instrument, ces films les uns après les autres, pour comprendre l'histoire d'une génération ou en tout cas un de ces lycéens qu'auront participé à l'histoire en 68 et comment après par rapport à l'amour du cinéma, par rapport à la vidéo, par rapport aux rencontres, par rapport à ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup d'images sur Sarajevo, il y a beaucoup d'images sur la fin de l'Union soviétique. Ce n'est pas du tout des films engagés, mais c'est des films concernés par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc si à un moment donné, dans une rétrospective pour la postérité, se mettait un long film avec les génériques qui seraient groupés au début et groupés à la fin, pour bien sûr montrer avec qui ça a bossé, c'est souvent les mêmes, ça me réjouirait, disons, de mon... des cendres dans lesquelles je serais transformé, ça me ferait plaisir de savoir que j'embête les gens pendant 12 heures d'affilée avec un grand et même film.
Merci beaucoup, Romain Goupil.
C'était la masterclass de Romain Goupil avec Arnaud Laporte. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Djergaillan.